Marie-Hélène rencontre. Le concept du balado est bien simple. En fait, c'est d'informer les citoyennes et les citoyens sur des sujets et des enjeux qui vous touchent. C'est aussi pour briser certaines idées préconçues sur la politique fédérale. Et bien sûr, d'en apprendre davantage sur votre député. Donc, les invités vont me poser des questions. Et pour la suite du jeu, je leur poserai des questions sous forme d'une discussion très conviviale. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à vous, très heureuse d'être en bonne compagnie, encore une fois, une invitée extraordinaire que je connais aussi très bien. En fait, cet épisode-ci, on va parler davantage de ce qui se passe au niveau social, les inégalités sociales, les enjeux qu'on a. Et ben, j'ai pensé tout de suite à une amie, une personne clé dans le développement social qu'on a ici chez nous. Et c'est nul autre que Laure Voilquin, qui est la directrice régionale de Centraide Haute-Laurentide, qui va en fait un peu nous dresser le portrait, et un portrait que moi-même je dois maîtriser comme députée pour faire mon travail de représentation à la Chambre des communes, n'est-ce pas? Bonjour Laure.
Bonjour Marie-Hélène.
Ça va bien?
Ça va bien,
oui,
toi?
Oui.
Merci pour l'invitation.
C'est un plaisir.
Moi, j'aimerais bien savoir un peu, j'aimerais en connaître un petit peu plus sur ton parcours personnel, ton parcours professionnel, si tu as des passions, des choses qui t'animent. Je sais que la politique, c'en est une, la famille aussi, mais encore.
Bien, c'est une bonne question. En fait, je profite de l'occasion parce qu'il y a des gens qui me connaissent bien, mais d'autres un peu moins. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand les gens me prenaient constat que j'ai eu un parcours atypique, c'est-à-dire des expériences de vie, de travail qui sont autant dans le développement économique, développement social, l'industrie forestière, d'être proche aidante aussi dans la vie, de toucher le milieu culturel, d'avoir œuvré à la Corporation de développement communautaire pendant des années, justement en ta compagnie. Et ce fut un moment important pour comprendre aussi les enjeux qu'on a dans la région. Ça, je t'en remercie d'entrée de jeu, Laure. Puis en même temps, tout le volet entreprise, parce que au fil du temps, j'ai décidé de partir en affaires avec mon conjoint. Donc, évidemment, tout le processus d'acquisition, comment on fait vivre une entreprise avec les enjeux qu'on vit actuellement, que ce soit de la main-d'œuvre ou la pérennité de l'entreprise, entre autres avec la pandémie. Honnêtement, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui avait besoin de défis. J'avais besoin de tirer des ficelles pour réussir à débloquer, réussir à aller chercher de l'aide suffisante dans le manque à gagner qu'on avait selon certains besoins collectivement. Et c'est pour ça que j'ai œuvré dans différentes tables régionales, même nationales. Et je me disais qu'il faut porter notre voix. Et je pense que ce côté-là, qui a été très riche en expérience, a fait de moi une personne qui, quand elle parle d'un enjeu, je l'ai peut-être vécu dans ma vie, dans le passé. Donc, je pense que c'est favorable pour bien représenter ces gens. Qu'est-ce que tu en penses?
Définitivement. Puis, tu sais, parler de porte-voix, effectivement, c'est ce que tu fais en tant que députée, mais c'est aussi ce qu'on a déjà fait ensemble à plusieurs niveaux. Alors, je comprends. Puis, ça va m'amener à la prochaine question qui est porter la voix, oui, mais pourquoi la porter en politique? Pourquoi la politique pour toi?
Ça, c'est la question que je me suis moi-même posée en 2019. En fait, la conjoncture a fait que je disposais d'un petit peu plus de temps, puisque j'ai été au chevet, tantôt je le disais, comme proche aidante auprès de mon père, qui a été des années en fin de vie. Et j'ai remarqué, bon, mes filles grandissaient, mais en même temps, j'avais besoin de défis aussi. Puis j'avais besoin d'apporter une différence dans ma collectivité. Et comme j'avais mis beaucoup de temps pour accompagner mon père en fin de vie et aussi accompagner mes enfants qui devenaient de plus en plus autonomes, j'ai dit « où faut aller? » Alors, quand on regarde tout ce qui se passe, on a tendance à dire « qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? » Vas-y. Vas-y et ensuite, tu pourras t'exprimer. Donc, c'est pour ça que d'avoir cette possibilité-là, qui est énorme, parce que d'entrée de jeu, c'est un territoire, on est 338 députés, et non seulement on ne se connaît pas tous par notre prénom, mais en même temps, c'est presque 38 millions de personnes qu'on représente. Hein. Juste Laurentide de la Belle, là, on est plus d'une centaine de mille. Fait que c'est gros. Est-ce que je suis capable de vraiment parler, de porter ma voix à ces gens-là? Mais au final, bien, c'est le contact que j'ai en faisant un balado comme ça, rencontrer des gens que j'apprécie, des acteurs clés de la communauté, et de savoir aussi à qui m'adresser lorsque j'ai besoin d'en savoir plus. Donc, je pense que la politique était était peut-être prescrit au final dans mon parcours. Je le dirai par la suite ce qui va arriver, mais pour le moment, je suis très étonnée comment des petites choses peuvent faire une grande différence.
Wow! C'est inspirant.
Oh!
C'est inspirant. Puis parlant d'inspiration, justement, tu sais, en tant que députée, tu exerces un certain leadership. Comment tu le vois, ce leadership-là?
Bien, en fait, j'ai eu quelque chose d'important qui m'a beaucoup fait réfléchir dans cette nouvelle, ce nouveau mandat-ci. C'est que j'ai toujours été moi-même une personne très simple, une personne qui aime les gens, qui a envie d'aider les gens. Et ça s'est fait remarquer avec mes collègues à la Chambre des communes, au Bloc québécois. Et mon côté bienveillant, rassembleuse, a fait en sorte que ce soit Yves-François Blanchet ainsi que mes collègues, on dit on a besoin de quelqu'un qui s'assure à la bienveillance et qui s'assure qu'on prend le temps de réfléchir ensemble parce qu'on a des choix à faire et des décisions à prendre. Donc, on m'a nommée présidente du caucus du Bloc québécois. Et ça, c'est aujourd'hui, parce que ça fait déjà plus d'un an que je le vis, je me rends compte que c'est digne de... Il faut être vigilant parce que finalement, on est au fait de ce qui se passe, autant dans le parti. On est au courant aussi de certains éléments, mais d'un autre côté, il faut comprendre que d'apporter ce qu'on connaît pour moduler des fois des prises de décision, ben, je pense que ça démontre que si je suis capable de l'exprimer, ben, ça va être bon pour la région en tant que telle. Et le leadership va s'exercer autant dans la façon d'être, la façon de se préoccuper des gens et de, évidemment, les respecter. Mais Laure, là, je parle. Je pense que ça démystifie un petit peu la politique pour moi, puis où j'en suis et qu'est-ce que j'ai envie éventuellement. Mais j'aimerais prendre aussi quelques minutes pour apprendre à mieux non seulement connaître Laure Voilquin, mais aussi quand on parle de s'entraide. Il y a beaucoup de gens qui connaissent s'entraide, mais peut-être pas assez spécifiquement sur l'impact sur la communauté. Et d'emblée, s'entraide Haute-Laurentide, c'est un peu plus grand territoire que seulement quelques municipalités. J'aimerais que tu nous en parles.
Ben oui, en fait, c'est pas un territoire aussi grand que Laurentide-la-Belle, mais c'est un grand territoire, tu sais, qui couvre la MRC des Laurentides et la MRC d'Antoine-la-Belle. Donc, tu sais, s'entraide, comme tu dis, les gens souvent connaissent, s'entraident, disent « oui, je connais, ok ». Et si je te demande ce qu'on fait, bien là, les gens sont un peu désemparés parce qu'on vous connaît, on sait que vous aidez des gens, mais ça s'arrête là. Alors, comment ça s'incarne, s'entraide au niveau de la communauté, au niveau de la lutte aux inégalités sociales, je dirais la lutte à la pauvreté, à l'exclusion sociale. Tu sais, c'est vraiment de bâtir des communautés plus inclusives. C'est de croire fermement que chacun a le pouvoir de développer son plein potentiel. C'est favoriser l'autonomie des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité pour qu'elles puissent reprendre confiance en l'avenir. Et comment ça s'incarne? Ça s'incarne avec des investissements sociaux. Donc, c'est les investissements qu'on va faire ici, sur le territoire. Ça va, dans un premier côté, un premier temps, il y a toute l'attribution directe qui est faite aux organismes, qui sont des organismes qui sont pertinents, qui sont alignés avec nos orientations stratégiques, qui développent des initiatives structurantes, qui offrent des interventions de qualité naturellement, qui sont des modèles en termes de gestion et de gouvernance. Et il y a aussi tous les investissements qui sont, de façon un petit peu plus indirecte, qui est tout le travail de concertation qu'on fait s'entraide. Tu as parlé un petit peu plus tôt là, de brosser le portrait. Pour être en mesure d'investir socialement de façon efficace et de s'assurer d'avoir l'impact le plus significatif pour chaque montant qui est investi, il faut qu'on connaisse notre communauté. Il faut qu'on sache où sont les enjeux, quelles sont les priorités. En sécurité alimentaire, en développement social d'une manière générale, mais tu sais, au niveau du logement, au niveau de l'itinérance, au niveau des jeunes. Puis on ne prétend pas tout connaître, mais en étant présent dans la communauté, en travaillant avec les partenaires, on arrive à trouver des solutions durables à des enjeux sociaux. Alors, tu sais, je rêve du jour où Centraide ne sera plus nécessaire dans notre communauté. En réalité, tu sais, c'est pas demain la veille. On le sait, là, avec la pandémie, les inégalités sociales se sont creusées. Elles sont vraiment exacerbées par cette situation. Ça a été assez terrible. Les personnes qui vivaient de l'isolement vivent encore plus d'isolement. Les personnes qui avaient des problèmes de santé mentale, c'est encore pire aujourd'hui. Maintenant, on voit des personnes qui travaillent temps plein puis qui doivent avoir recours à du dépannage alimentaire. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut catégoriser ça de normal. Elle est où, la normalité? En même temps, la notion de normalité, elle a vraiment changé là, depuis 2 ans. Et de la même façon, la notion de vulnérabilité, elle a changé aussi depuis le début de la pandémie. Parce qu'on retrouve maintenant des gens qui pensaient jamais avoir besoin de certains services puis qui aujourd'hui en ont besoin. Alors, tu sais, des fois, on dit avec Centraide que personne n'est à l'abri, mais je pense que la pandémie, elle a mis le doigt dessus puis elle a démontré à quel point, effectivement, personne n'est à l'abri de tomber dans une situation de vulnérabilité puis d'avoir besoin de services, d'avoir besoin de ressources auprès des organismes. C'est ça que fait Centraide ici dans la communauté.
Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens qui ont le souhait de faire des dons et qu'au final, l'individu ne peut pas connaître l'ensemble des organismes, pourrait choisir quelle collectivité ou quel type de service que la personne veut offrir comme don. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que Centraide, c'est la garantie en fait, d'offrir à la collectivité là où il y a les plus grands besoins, parce que vous avez fait en amont une analyse. Donc, dans le fond, c'est une garantie que l'argent va être à bon escient.
Oui, définitivement. C'est vraiment la garantie d'un don bien investi. Tu sais, c'est un comité de bénévoles qui va procéder aux analyses. On va tenir compte des priorités du territoire, on va tenir compte des enjeux sociaux, donc on va s'assurer que dans nos investissements sociaux, on va répondre à un problème qui est là, un problème qui est réel. Et pour le faire, il faut la connaître, la communauté. Donc, on a vraiment tout ce travail d'analyse-là qui est très rigoureux et qui va nous permettre de nous assurer que chaque don va être investi avec un impact le plus significatif possible au niveau des personnes qui sont en situation de vulnérabilité. On va s'assurer qu'on est dans des initiatives qui favorisent l'autonomie des personnes, donc leur permettre de reprendre le dessus sur leur vie. Et on va donc toujours s'assurer là, vraiment de la pertinence, de la qualité des interventions qui sont réalisées par les organismes.
J'ai entendu dans ta voix qu'il y a une augmentation de la vulnérabilité avec la pandémie. Puis aujourd'hui, quand je m'adresse à toi, alors, avec ton chapeau de Centraide, qu'est-ce qui est le plus criant?
On est très préoccupés, je ne t'apprendrai rien si je te dis qu'on est très préoccupés par le logement, la crise du logement. Avant la pandémie, il y avait déjà une grande proportion de résidences secondaires ici sur le territoire. Et la région des Laurentides avait déjà le plus haut taux migratoire avant la pandémie. Donc là, avec la pandémie, le télétravail, les gens veulent venir habiter la région, profiter des beautés de la région. Donc on se retrouve avec un problème au niveau du logement. Ça accentue également une accessibilité aux services de proximité parce que plus de personnes égale plus de besoins, puis des besoins différents également aussi selon qu'on est ancien villégiateur, je dirais, là, qui venons rester ici dans la région à temps plein ou qu'on est déjà justement un résident permanent de la région avec des besoins en termes de pauvreté, d'exclusion sociale. Donc, on a la crise du logement qui est là, on a l'itinérance. Quand on parle de migration puis de gens qui partent de la ville pour venir ici, bien, on a aussi cette situation-là au niveau de l'itinérance qui s'opère. On voit aussi une grande vulnérabilité au niveau des jeunes. Ce que nous disent les intervenants, c'est qu'il y a du décrochage, il y a un manque de motivation, il y a un désengagement de la part des jeunes. Je dirais que la santé mentale, c'est vraiment un enjeu de taille pour tout le monde. Donc, tu sais, quand on dit que les gens qui avaient un problème de santé mentale avant la pandémie, ben là, les problèmes sont exacerbés, les ressources manquent. Donc, c'est vraiment pas évident à ce niveau-là. On a besoin d'assurer un continuum de services pour les personnes aussi qui ont un problème de santé mentale. Fait que ça, c'est pas évident. On a besoin de d'encadrement, on a besoin de soutien, on a besoin de services. Puis, il n'y en a pas beaucoup des services, il n'y en a pas tant que ça. Alors, les organisations qui offrent des services le font de façon admirable, puis au mieux, du mieux qu'ils peuvent, mais ils atteignent leur pleine capacité. Donc, là, il va falloir penser à autre chose, il va falloir sortir de la boîte.
Est-ce qu'avec ce qu'on a pris conscience, parce que collectivement, on a pris conscience de nos frontières, de la beauté de notre territoire, mais aussi des enjeux de développement et de la migration, comme tu disais tantôt, est-ce que le fait d'avoir mis en lumière l'importance de l'organisation communautaire, des services directs du communautaire, est-ce qu'on peut avoir un espoir pour la générosité, la solidarité, pour que collectivement, on puisse se retrousser les manches et d'arriver de ne pas s'en aller dans une pente descendante, parce qu'actuellement, l'inflation est aussi extrêmement difficile à conjuguer là, pour plein de familles.
Et on l'espère vivement. En fait, c'est sûr que l'inflation, tous les prix qui augmentent, au niveau de l'épicerie, au niveau du logement, au niveau de l'essence, ça peut avoir un incidence sur les dons. Les gens vont y penser à deux fois peut-être en se disant « Écoute, moi, cette année, c'est plus difficile parce que, justement, tout me coûte déjà beaucoup plus cher. » Donc, on espère que les personnes qui ont les moyens vont pouvoir peut-être bonifier leurs dons ou faire un nouveau don en étant conscient justement des besoins de leur communauté. On a beau habiter, on habite une super belle région avec des beaux paysages. C'est très attirant de venir rester ici à temps plein, puis on est sur le bord du lac. Mais il y a énormément de besoins, énormément de besoins. On est vraiment dans un milieu qui est défavorisé, autant matériellement que socialement. On a des déserts alimentaires sur notre territoire. Ça, c'est des gens qui n'ont pas accès à la nourriture dans un périmètre qui est
acceptable,
effectivement. Il faut être conscient de ça. Il faut être sensible à ça, puis se dire, si moi, ça va, j'ai les moyens d'être justement sur mon bord de lac. Il y a des gens qui vivent de l'exclusion sociale, qui vivent de la pauvreté, puis peut-être que moi, à ma mesure, je peux les aider.
Ce que je comprends, c'est qu'en fait, le don aujourd'hui, avec l'augmentation de la vulnérabilité de la population à tous les niveaux, il est encore plus précieux. Il l'a toujours été, mais donc vos campagnes vont être déterminantes aussi pour aider la collectivité là, dans la prochaine, parce qu'il y en a combien par année des campagnes?
Tu parles ça, des campagnes en milieu de travail.
Oui, en milieu de travail. Ensuite, il y a des campagnes nationales, je crois, puis la guignolée des médias.
Oui, en fait, la campagne, d'une manière générale, elle se tient à chaque automne. C'est là qu'on lance les fameuses campagnes en milieu de travail, donc où là, les gens ont la possibilité de faire un don directement à la source. Mais on a aussi des activités, puis on a aussi lancé, dans le fond, dernièrement, le Cercle des donateurs majeurs de Centraide Haute-Laurentide. Donc ça amène beaucoup d'eau au moulin. Donc c'est à ces philanthropes-là qu'on fait appel pour leur dire, regarde, vous vivez bien, vous avez ce privilège-là, cet incroyable privilège, j'oserais dire. Alors, c'est important de prendre conscience des besoins sociaux, puis de redonner aussi dans la communauté, qui peut des fois être une communauté d'adoption. Hein, quand on vient peut-être vivre 3-4 mois dans l'année, on peut prendre conscience aussi là, des besoins de cette communauté-là, parce que le territoire est beau, le territoire est accueillant, mais le territoire a beaucoup, beaucoup de besoins.
Donc, je te remercie vraiment, d'une part, d'avoir accepté de vivre cette expérience-là de balado, mais de nous avoir aussi donné un peu plus d'indices et d'encouragement pour faire des dons, mais aussi, on peut communiquer avec vous, Centraide, si on a des requêtes quelconques ou des souhaits de dons, j'imagine.
Tout à fait. On est toujours disponible.
Bien, fantastique. Bien, merci à toi, Laure, et ça complète cet épisode. J'espère que vous avez apprécié et aussi appris. Ça vous a donné le goût d'encourager les gens qui se donnent cœur et âme au bénéfice de la collectivité. Merci. Vous souhaitez partager ou réécouter cette balado? Rendez-vous sur mes différentes plateformes numériques. Je vous remercie pour votre écoute.